Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
On vous avait promis que cette saga durerait plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La saga de la reprise de Casino et de la renégociation de sa dette avec ses créanciers. Journée importante aujourd'hui, car ce soir minuit, c'est la fin des négociations exclusives entre Casino et un des repreneurs, un des camps de repreneurs, Teract. Xavier Niel, Mathieu Pigas et Moëz Alexandre Voiry en sont les actionnaires. Et ils sont prêts à tout, y compris à sortir leur carnet de chèques pour l'emporter. Explication avec Pauline Tadevin.
Depuis le début des négociations exclusives fin avril, les lignes de l'offre portée par Teract ont bougé, mais pas la détermination de ses fondateurs Xavier Niel, Moëz Alexandre Zouari et Mathieu Pigas. C'est leur bébé, nous dit une source, ils iront jusqu'au bout. C'est d'abord un projet industriel pour transformer Casino en accent sur le circuit court. Il est jugé sérieux, Intermarché s'y associe, mais Casino a besoin d'argent frais. Pour rassurer ses créanciers et rester dans la course face à l'offre concurrente de Daniel Kretinsky qui pose 1 milliard d'euros sur la table, les fondateurs de Teract ont décidé de sortir les carnets de chèques de façon individuelle et d'investir au niveau du groupe Casino. Reste à connaître la place de la maison mère de Teract, le géant de l'agroalimentaire Invivo, avec ses 192 coopératives agricoles et sa force commerciale. Un atout non négligeable face à l'enjeu social, 55 000 emplois rien qu'en France, et alors que Bercy surveille de très près ce dossier.
Et en attendant les détails de l'offre de Teract, la situation financière de Casino s'aggrave. Le groupe a reconnu avoir consommé 1 milliard d'euros de cash de plus qu'annoncé en 2022. Investisseurs, créanciers, repreneurs s'inquiètent des réels besoins du groupe. Mathieu Pechberti.
La situation de Casino est encore pire que le groupe ne le disait jusqu'ici. Depuis un an, le distributeur brûle encore plus de cash. Il y a un mois, il a reconnu avoir emprunté tout au long de l'année 2022 1,2 milliard d'euros auprès de ses banques pour faire face à sa variation de trésorerie. Il s'agit de lignes de crédit, en général non utilisées, auxquelles les entreprises souscrivent pour faire face à des crises intenses. Casino a reconnu que ce montant de cash avait même augmenté à 1,6 milliard au premier trimestre 2023. Preuve que la situation se détériore encore plus depuis le début de l'année. Cette révélation inquiète les investisseurs car Casino n'en avait pas informé les marchés lors de la publication de ses résultats 2022, début mars. Elle ne fait que relancer notre inquiétude sur la sincérité des comptes, nous explique un créancier du groupe. Toutes les parties prenantes attendent la présentation de 2 rapports d'expertise indépendante lundi prochain sur la santé financière de Casino. Ils regarderont de près la consommation de cash et le niveau de dette pour estimer les réels besoins en capital du groupe.
Et sur le dossier Casino, tous les détails sont à retrouver sur bfmbusiness.com.
Plus qu'une dizaine de jours avant l'ouverture du 54e salon aéronautique du Bourget, où nous nous rendrons d'ailleurs plusieurs jours durant pour le BFM Business et la matinale. Depuis le Covid, vous le savez, les nouveaux enjeux sont énormes pour le secteur. Le Covid et la guerre en Ukraine également. Le programme présenté hier par le GIFAS est chargé, Jean-Baptiste Huet.
Un salon du Bourget qui veut enfin tourner la page du Covid. Le trafic aérien est remonté à son niveau d'avant-crise. Les constructeurs croulent depuis plusieurs mois sous les commandes. La plupart des feux seraient au vert si le secteur n'était toujours pas confronté à des problèmes de supply chain et des pénuries. En premier, l'emploi. Rien qu'en France, on cherche 25 000 personnes cette année. Ce sera évidemment l'un des thèmes majeurs de ce salon du Bourget. Autre thème qui va être très largement abordé, la décarbonation du secteur aérien, le développement des carburants durables, l'électrification, l'hydrogène. Les organisateurs entendent bien d'ailleurs profiter de l'occasion pour tordre le cou à l'avion bashing, la honte de voler. Patrick Daher, le commissaire général du salon, a tapé du poing sur la table. Il y en a marre. Enfin, la guerre en Ukraine et plus globalement la géopolitique vont occuper une grande place avec des tables rondes et des conférences. On note d'ailleurs une forte présence militaire du côté des exposants, tout particulièrement avec les États-Unis qui viennent montrer leurs muscles pour l'occasion avec plus de 400 sociétés.
Et l'été s'annonce compliqué du côté de l'aéroport de Londres-Heathrow. Un appel à la grève a été lancé pour 31 jours à partir du 24 juin. En plein pic des vacances estivales, les agents de sécurité déplorent, je les cite, des niveaux de paix abjects.
BYD à la conquête de la France. Le constructeur de voitures électriques chinois se lance officiellement dans l'Hexagone avec des objectifs ambitieux, mais aussi un leitmotiv, y aller doucement, mais sûrement. On aurait pu le dire en italien, Justine Vassogne.
BYD a choisi Aix-en-Provence pour lancer sa campagne française parce que BYD, qui avait fait beaucoup parler de lui lors du dernier mondial de l'auto à Paris, c'était à l'automne, et bien pour le moment a une présence très confidentielle dans l'Hexagone. On ne peut acheter aujourd'hui une voiture BYD que dans deux showrooms à Paris. L'idée, c'est de tisser sa toile sur le territoire. D'ici la fin de l'année, BYD veut être entré chez 20 concessionnaires français. En 2025, le constructeur chinois vise une centaine de points de vente. BYD a conscience que sa marque n'est pas connue en France. Il faut gagner en visibilité. Il faut se faire un nom. Et BYD veut pour cela prendre son temps. Écoutez Brian Young, c'est l'assistant général manager de BYD en Europe.
Nous sommes vraiment à l'écoute du client, à l'écoute du marché, pour voir comment nous pouvons préparer le meilleur produit et les meilleurs services pour le marché, et aussi pour voir quelle part de marché nous pouvons obtenir pour commencer, et quel type de produit et de service nous pouvons préparer pour nos clients.
Pour partir à la conquête du marché français, BYD va lancer 5 modèles, tous 100% électriques, avec des prix qui varient de 29 000 euros pour la BYD Dolphin, une voiture compacte de segment C, et qui peuvent monter jusqu'à 70 000 euros, des prix beaucoup plus chers que ceux pratiqués par BYD sur le marché chinois. C'est un positionnement premium, mais accessible, explique la marque, qui ne se lance pas qu'en France. Elle est déjà présente dans le nord de l'Europe depuis un an. Elle part aujourd'hui à l'assaut du sud, Espagne, Portugal le mois dernier, Italie la semaine prochaine. Et puis pour parfaire sa conquête européenne, BYD, on le sait, cherche à implanter une usine en Europe. On n'a pas eu de précision sur la localisation de cette usine, mais la France fait toujours partie des très sérieux candidats.
L'OCDE prévoit encore une faiblesse prolongée pour la croissance mondiale, 2,7% cette année, puis 2,9% l'an prochain pour les pays industrialisés. C'est un peu mieux que la précédente prévision, mais l'inflation va persister dans les prochains mois. L'OCDE estime qu'il faut maintenir les politiques monétaires restrictives jusqu'à ce qu'il y ait des signes clairs d'apaisement. On sera justement à 8h15 avec Philippe Aguillon, économiste et professeur au Collège de France.
Rishi Sunak est en visite aux États-Unis et le Premier ministre britannique en a profité pour expliquer qu'il voulait placer le Royaume-Uni au centre de la carte mondiale de l'intelligence artificielle, entre l'approche pro-innovation des Américains et l'approche réglementaire des Européens. Étienne Henry.
Rishi Sunak va enfin pouvoir parler intelligence artificielle avec Joe Biden. Mis à l'écart des discussions entre l'Europe et les États-Unis sur la régulation, le Royaume-Uni veut désormais s'imposer comme une puissance d'équilibre. Mais le discours du gouvernement britannique sur le contrôle de l'IA évolue avec le temps. Lors de la publication d'un livre blanc en avril dernier, l'approche se voulait pro-innovation. Depuis, les alertes en matière de régulation se sont enchaînées. L'évaluation des risques est alors devenue primordiale. Un entre-deux qui pourrait placer Londres comme capitale de la gouvernance mondiale de l'IA. Rishi Sunak souhaite que le Royaume-Uni accueille un organisme mondial de surveillance de l'intelligence artificielle sur le modèle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une idée déjà avancée par Sam Altman, le patron d'OpenAI. Pour s'affirmer comme leader, Sunak souhaiterait organiser à l'automne prochain un sommet international sur l'intelligence artificielle pour discuter des risques et de la norme internationale à fixer.
Le parapétrolier Bourbon va finalement être vendu, c'est ce que révèlent nos confrères des Échos. Les banques qui détiennent le groupe depuis 2020 en ont marre de cette dette colossale. Ils recherchent de nouveaux investisseurs. Plusieurs pays du Golfe seraient intéressés. Une nouvelle étape dans la chute de cette ancienne pépite française, Raphaël Coudert.
Les navires Bourbon ne seront peut-être bientôt plus sous pavillon français. 3 ans après avoir repris les clés, les actionnaires du groupe ont mandaté la banque Lazard pour trouver un repreneur. Dernier épisode de la longue descente aux enfers de cet ancien fleuron. Dans les années 2000, lorsque Bourbon prend le virage du service pétrolier, la période est faste, le baril dépasse les 100 dollars. Le parapétrolier investit alors massivement dans sa flotte et ses 500 navires en font le leader mondial du secteur. Mais à partir de 2014, le retournement du marché change la donne. Bourbon se retrouve en surcapacité. Sa dette explose à 2,7 milliards d'euros en 2019. Le groupe est alors racheté par ses créanciers, 5 banques françaises parmi lesquelles BNP Paribas et Société Générale. Quelques mois plus tard, 2 autres établissements, britanniques et chinois, entrent également au capital. Aujourd'hui, ses actionnaires ne souhaitent pas remettre la main à la poche, alors que Bourbon a encore besoin d'argent frais pour rembourser certaines dettes, mais aussi pour financer un plan d'investissement massif de modernisation de sa flotte.